12h15, l'heure du journal d'Estelle Herman. Bonjour Estelle.
Bonjour. Un projet de Swiss Energy vise à transformer la manière dont les citoyens se déplacent. Momodu propose des solutions de mobilité écologique, intelligente et accessible. La commune de Tramelan y participe. On espère que vous n'avez pas le mal de mer. Il est l'heure d'embarquer sur l'Aimara. Notre série Voyager autrement vous emmène aujourd'hui sur le voilier de Marie Vieumier. Les chutes sont nombreuses au Tour de France. Depuis samedi et le coup d'envoi de la Grande Boucle, elles ont eu lieu dès le premier kilomètre de course. Des cartons jaunes ont même été sortis et ils font beaucoup parler. Côté météo, vous l'avez remarqué déjà ce matin, les températures sont fraîches pour la saison. Le temps restera changeant et instable pour la suite de la journée, avec un ciel alternant entre belles éclaircies et périodes nuageuses. Quelques averses éparses pourraient éclater en milieu d'après-midi et sur le Jura. Tramelan passe la deuxième sur le chemin de la mobilité. Cette année, la commune est retenue pour participer au projet Momodu pour modèle de mobilité durable dans les communes et les régions. Il est mis sur pied par Swiss Energy, le programme d'encouragement de la Confédération, dans l'objectif d'expérimenter des approches innovantes en lien avec la façon de se déplacer. Aujourd'hui, Christophe Gagnebin, conseiller municipal chargé du développement territorial, a présenté les défis qui ont poussé sa commune à candidater.
La commune de Tramelan mène depuis plusieurs années déjà des réflexions en termes de mobilité, puisque nous sommes confrontés à un certain nombre d'enjeux, l'augmentation du trafic sur l'artère principale, le développement de zones industrielles potentielles à terme, le déplacement des écoliers et puis le déplacement des tramelotes vers les différentes infrastructures sportives qui se trouvent aux différents coins de la cité. Donc tout cela implique des défis en termes de mobilité auxquels nous essayons de répondre. Et ce projet Momodu est pour nous, je dirais, l'occasion de donner un coup d'accélérateur.
Pour contrer ces problématiques liées à la mobilité, quatre axes seront à l'étude. Une phase menée conjointement avec le parc régional Chasseral, dont Saralina Thiévan est la directrice adjointe.
Il y a quatre thèmes qui ont été identifiés à Tramelan dans le cadre du projet Momodu. C'est les mobilités actives avec un accent particulier sur la mobilité cycliste et aussi les personnes à mobilité réduite. Ensuite, il y a tout un volet en lien avec le trafic pendulaire qui va aussi occuper les études. Là, on souhaite travailler en étroite collaboration avec les entreprises qui sont sièges dans la commune de Tramelan pour voir si on peut trouver des pistes d'amélioration en la matière. On va également travailler sur les mobilités partagées, voir s'il est possible de réintroduire des véhicules partagés dans la commune de Tramelan. Et finalement, un autre volet qui continue d'être soutenu, parce qu'il y a déjà une étude qui a été réalisée, c'est sur l'électromobilité, comment ça peut être développé, amélioré à Tramelan.
La phase d'étude court jusqu'en mai 2026. L'Office Swiss Energy décidera ensuite s'il continue de soutenir Tramelan dans ses projets. Si c'est le cas, la commune serait épaulée pendant 5 ans avec un soutien financier de 40%, mais uniquement pour le travail de planification. Le ministère public du canton de Berne publie aujourd'hui des photos pixelisées de l'auteur d'un braquage à Bienne. Le 20 juin, un brigandage s'est produit dans un commerce 6 à la route de Bruck 106. Le braqueur est parti avec la caisse et l'argent qu'elle contenait, 870 francs. Il reste activement recherché. Toute information concernant l'identité de la personne recherchée est adressée à la police cantonale bernoise. Si cela ne suffit pas pour retrouver l'homme, ces photographies seront publiées sous leur forme original mardi prochain. Naviguer vers l'ailleurs, notre série Voyager autrement s'intéresse aujourd'hui à ceux qui ont troqué les routes ou les airs contre les flots. Juste après la pandémie de Covid-19, Marie Vieumier a voyagé sur un vieux voilier pendant plus d'un an et demi avec son compagnon. Belgique, Pays-Bas, Allemagne, pays nordique, c'était en 2021 et depuis, elle navigue deux fois par an à bord de l'Aimara. Originaire de Tramelan, elle fait aussi partie du comité de la Bordée de Tribord, le club de voile de la Neuve-Ville. La navigation comme loisir est une chose, mais passer un long séjour sur un bateau en est une autre, Marie Vieumier.
C'est vrai que c'est pas du tout la même chose d'aller en vacances en voilier, mais c'est un peu comme le camping en fait. Si on fait deux semaines de camping, c'est pas comme si on vivait toute l'année dans une tente en camping. Et le bateau, c'est la même chose. C'est vrai que c'est pas un confort phénoménal. Surtout nous, on a un vieux bateau, un vieux voilier en bois en fait de 1912, qui est vraiment très beau. et puis qui navigue très bien, mais niveau confort à l'intérieur, à la base, c'était un bateau de course, en fait, pour faire des régates. Donc, on l'a un peu aménagé, mais ce n'est pas le confort maximum. Donc, il faut déjà s'habituer au confort, effectivement, au fait que, voilà, on n'a pas un lit hyper confortable, etc. Et puis, ce qui est très particulier avec un bateau, c'est que ça bouge. Donc, en fait, on peut tout installer dedans, avoir un très bon confort, mais quand on va naviguer en mer, tout à coup, il y a tout qui va être secoué dans tous les sens, le bateau, il va pencher. Comme c'est un vieux bateau, il y a aussi de l'eau qui rentre à l'intérieur. C'est vrai qu'il faut aussi être prêt, que tout qui soit un peu chamboulé, il faut toujours tout bien ranger à l'intérieur, tout bien bloqué pour que ça ne bouge pas. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de particulier au bateau. Et aussi, c'est un très petit espace où là, on était donc deux personnes, hein, donc c'est à peu près 10 mètres carrés, où on est tout le temps ensemble. Ben, il faut aussi s'habituer à ça, quoi, d'être dans un tout petit espace, pas forcément pouvoir toujours sortir, se promener, etc. Alors même si quand on est dans les ports, on peut aller visiter. Et puis après, ben, on est des fois dans des endroits un peu isolés, on peut pas toujours sortir, voir des gens. Ouais, c'est des choses qu'il faut avoir en tête, je pense, quand on fait ce genre de voyage, c'est vraiment qu'on va être beaucoup qu'avec la personne avec qui on voyage, dans un petit espace, et puis ben, qu'il faut s'habituer au confort.
Justement, on s'habitue à cette étroitesse, à ce côté voilà, de tout le temps être en mouvement.
Oui, alors on s'habitue assez vite, je dirais. Surtout qu'il y a tous les avantages aussi du voyage avec, hein, c'est qu'on a une énorme liberté, on peut vraiment décider où on veut aller quand on veut. On voit des choses magnifiques, donc il y a tous les paysages, les oiseaux, les animaux marins, etc. Donc tout ça, ça compense aussi le fait que ben, le confort n'est pas optimal, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont des fois plus compliquées que d'autres. Hein, quand tout à coup, on a deux semaines de pluie, ou alors quand on a une mer qui est vraiment déchaînée et puis le bateau qui secoue vraiment beaucoup, même à l'intérieur du port, c'est sûr que ce n'est pas des moments toujours très faciles. Mais après, il y a aussi les moments où c'est plus calme, où il fait beau, on peut mettre le hamac en haut, entre les deux mâts, pour profiter du soleil. Donc je pense que c'est vraiment très contrasté, en fait, ce genre de voyage.
Comment on se sent de manière générale quand on est sur un bateau comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois?
On a beaucoup de temps pour réfléchir à soi-même, au sens de la vie, etc. Donc c'est positif, mais ça peut aussi être négatif, hein, si tout à coup on ressasse des choses. Et puis ben, on se sent, je ne sais pas, très libre effectivement quand même. Et moi, ce que je trouve super, c'est quand même quand on navigue, et qu'on est dehors tout seul, en fait, sur le bateau, en plein milieu de la mer, parce que quand on navigue à deux, on se relaye, en fait, à la barre, parce qu'on n'a pas d'autopilote. En fait, il y a beaucoup de bateaux modernes qui ont un autopilote, mais nous, pas. On doit vraiment sortir puis tenir notre bas. On a cette mer autour de nous, on a des oiseaux, on a le bruit des vagues. Et puis ça, je trouve, c'est vraiment un sentiment qui est super et puis qui est très, je sais pas, qui est très reposant, je trouve. C'est très beau, vraiment. Et puis notamment la nuit, quand on fait des navigations de nuit, avoir le ciel étoilé au-dessus de nous. Donc moi, je dirais que les sensations vraiment de navigation, elles sont super. Même s'il y a justement des moments, des fois, un petit peu, on est un peu plus inquiet quand tout à coup, on sent que le vent forcit ou tout à coup, les vagues, elles ne sont pas dans la bonne direction qu'on pensait. Mais globalement, je pense que c'est quelque chose d'un peu réflexif. On peut réfléchir un petit peu à plein de choses, mais d'une manière plutôt positive.
Retour sur Terre dans le prochain épisode de notre série Voyager autrement. Le Biennois Cyril Pache nous parlera de train de nuit demain dans la matinale et dans notre édition de midi et quart. Après le drame de Givisier, le collectif Grève Féministe Fribourg réclame des actes. Un homme est suspecté d'avoir tué sa femme et son bébé de 6 semaines samedi dans le village fribourgeois. Dans une prise de position ce matin, le mouvement estime qu'il est urgent de mettre en place des mesures systématiques de lutte à l'échelle nationale contre les violences sexistes et sexuelles. L'entité appelle à un rassemblement demain à Fribourg. Cette affaire constitue le 19e féminicide de l'année en Suisse, selon le collectif. Encore des économies en perspective au CICR. Le Comité international de la Croix-Rouge va réduire son budget de 17% pour 2026. Des postes seront supprimés, indiquait-il ce matin. L'organisation humanitaire avait déjà été confrontée en 2023 à des difficultés. Elles avaient déjà fait passer son budget de 2,8 à 2,1 milliards de francs. 4500 postes avaient été supprimés. Le conseiller national jurassien Thomas Stettler fait partie de ces paysans UDC élus en 2023 au Parlement fédéral. Pour notre série d'été, comment s'organisent les parlementaires fédéraux durant les sessions? Il raconte ses va-et-vient presque quotidiens entre Berne et sa ferme dans le Jura, à la fois parce qu'il doit continuer de mettre la main à la pâte dans l'exploitation familiale, mais aussi parce qu'il estime nécessaire de rester dans la vie active. Thomas Stettler.
On répond au feu de la situation, c'est-à-dire qu'on regarde notre ordre du jour, on regarde qu'on soit toujours présent aux séances de session, On doit aussi faire des choix sur des invitations potentielles qu'on a pour des échanges. Sitôt que la session se termine, ben, je suis aussi un chef d'exploitation et je dois prendre contact avec mes gens pour essayer d'organiser au mieux le fonctionnement de l'entreprise. Comme hier, par exemple, on a pu quitter le Parlement déjà à 13h, donc à 14h30, j'étais sur les machines et puis bien sûr, on a profité du beau temps. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui restent toujours à Berne, ça donne un peu un microcosme. C'est aussi un avantage hein, d'avoir un contact privilégié avec les gens avec lesquels on va souper, on va même déjeuner. Ça m'arrive de rester quand on a session jusqu'à 7h du soir et aussi participer à ces intergroupes parce qu'on doit cultiver des relations saines et amicales avec tous les parlementaires.
Thomas Stettler, à vous, peut goûter aux invitations multiples reçues durant les sessions parlementaires, en particulier des grands lobbies économiques. Près de 110 000 personnes provenant d'environ 4 000 entreprises ont pris part cette année au Challenge Bike to Work. Ce programme de Pro Vélo Suisse vise à promouvoir le vélo et la santé des Suisses. Les participants ont parcouru au total l'équivalent de 728 fois le tour de la Terre. Ces déplacements à vélo ont permis d'économiser près de 4 200 tonnes de CO2. Les États-Unis vont envoyer des armes supplémentaires à l'Ukraine. Donald Trump l'a annoncé hier, alors que la Maison Blanche avait déclaré suspendre certaines livraisons la semaine passée. Nous allons devoir envoyer plus d'armes, principalement défensives, a précisé le président américain. Il s'est dit mécontent à l'égard du président russe Vladimir Poutine. Chez les primates, les mâles ne sont pas si souvent alpha. Une étude franco-allemande publiée dans une revue scientifique bat en brèche l'idée d'une dominance des mâles largement répandue chez les primates. Elle dresse un tableau bien plus nuancé des relations entre sexes opposés. Une dominance stricte des mâles, comme chez les babouins ou les chimpanzés, n'a été observée que dans 17% des cas. Les auteurs de l'étude ont mis 5 ans à rassembler des données issues de plus de 250 espèces.
RJB, il est 12h27.
RJB, sport.
C'est un peloton sous haute tension qui anime les premières étapes du Tour de France cycliste. Depuis samedi et le coup d'envoi de la grande boucle, plusieurs chutes ont émaillé les premiers kilomètres de course. Plusieurs cadors ont été contraints à l'abandon. C'est le cas du Danois Jasper Philipsen, de l'Italien Filippo Ganna ou encore du Suisse Stéphane Bisseguer. Après une fin d'étape chaotique hier, les commissaires ont distribué leur premier carton jaune. Cette innovation qui est inspirée du football vise à punir les mauvais comportements et elle fait débat, notre confrère de la RTS, Jérôme Janin.
Le Tour de France a sombré dans le chaos hier. Chute après chute, la fin d'étape a ressemblé à une partie de bowling avec plusieurs strikes dans les derniers kilomètres. Juste après l'arrivée, plusieurs coureurs ont exprimé leur émotion face à certains comportements. Parmi eux, le Français Arnaud Démare, qui appelait déjà les commissaires à sortir leurs bâtons.
Franchement, il se passe des choses qui sont pas forcément très diplomates, donc j'espère que déjà hier avec le sprint intermédiaire il n'y a pas eu de carton distribué, donc si on veut calmer le jeu il va falloir que les commissaires fassent leur travail.
Et les sanctions n'ont pas tardé, les commissaires ont émis 4 cartons jaunes, l'un d'entre eux contre Brian Coquard, autre Français responsable de la chute et de l'abandon de Jasper Philipsen, bien malgré lui.
Une seule journée, oui, vous imaginez que faire abandonner le maillot vert, ça ne fait pas plaisir. J'ai été clairement, déséquilibré, j'ai perdu la pédale de la chaussure, j'ai presque perdu la chaussure et je tiens à m'excuser auprès de Philipsen et d'Alpecin, même si je ne suis pas un mauvais bougre, un mauvais garçon, c'est toujours pas agréable.
Le désarroi de Brian Coquard averti, contrairement au coureur qui l'a poussé, Lorenz Rex, c'est bien pour cette subjectivité que les cartons font débat, d'autant que les coureurs sanctionnés encourent désormais l'exclusion pure et simple en cas de récidive.
La 4e étape du Tour de France se tient cet après-midi entre Amiens et Rouen. Yannick Sinner va subir des examens médicaux aujourd'hui. Le numéro 1 mondial de tennis s'est blessé au coude hier au début de son 8e de finale à Wimbledon face à Grigor Dimitrov. Le joueur italien doit affronter demain l'américain Ben Shelton en quart de finale. C'est la fin de cette édition. Bon appétit.
RJB Sport.